Bonjour, vous êtes avec la Fondation La Cause. Alain Devels, directeur général de la Fondation La Cause, nous allons parler aujourd'hui de la façon dont les solos vivent cette période difficile du Covid-19, avec Nicole Devels, qui est pasteur, conseillère conjugale et qui dirige le département solo duo de la Fondation La Cause.
Bonjour. Le terme solo peut-être surprendre. Il s'agit de désigner l'ensemble des personnes qui vivent seules, qu'elle soit célibataire depuis toujours, qu'elle soit séparée d'un ami ou qu'elle soit divorcée d'un conjoint ou qu'elle soit aussi dans une situation de veuvage, veuf ou veuve. Ce terme solo a été inventé par les sociologues pour désigner toute cette population qui finalement ne vit pas en couple et qu'on ne peut pas tout à fait décrire par le mot célibataire.
Donc des situations qui peuvent être très différentes d'un solo à l'autre, puisqu'on peut imaginer un solo qui est vraiment tout à fait isolé, ou un solo qui est mère ou père au foyer avec quelques enfants.
Et de tout âge, de 20 ans à 80 ans, on peut être solo. On s'aperçoit que dans notre société, si on considère cette catégorie de personnes, cela représente un tiers, voire parfois la moitié des personnes d'une ville ou d'une église.
Dimanche dernier, je suis allé au culte seul. Et il s'est trouvé qu'en raison du Covid, il fallait un espace de sécurité pour ne pas contaminer les voisins. Ça signifiait que à ma gauche et à ma droite, et devant et derrière moi, il y avait un grand espace vide avec des chaises vides, et que j'ai ressenti deux sentiments assez forts. Le premier, c'est d'être assez isolé, de me retrouver très seul. Et le deuxième, une sorte de culpabilité en me disant que je prenais plus de place qu'une famille avec deux, trois membres qui venaient dans ce même lieu. Et quelque part, l'idée m'est même venue de dire « est-ce qu'il ne faudrait pas que je parte pour laisser plus de place aux autres dans ce lieu de culte ?»
Cette sensation, ce sentiment est exactement ce qui est décrit par de nombreuses personnes solo. D'abord, la sensation d'isolement dans les lieux publics qui est devenue extrêmement pénible, voire vraiment une souffrance. Après avoir été isolé dans son appartement pendant le confinement, chacun a besoin de relations sociales, qu'on soit en famille, en couple ou solo. Mais les solos plus particulièrement, il faut imaginer ce que ça a été d'être pendant 2 mois ou voire 3 mois tout seul dans son appartement, sans contact visuel ou physique autre que cet ordinateur qui nous a proposé des vidéos. Et donc, il y a vraiment un appétit à retrouver une vie en société. Et quand maintenant, dans les cinémas, des restaurants, c'était déjà le cas, mais en tout cas, cinéma ou bien l'église, on vous demande de vous asseoir vraiment de façon ostensiblement isolée. Il y a comme ça une espèce de mise à l'index qui peut être très pénible.
Il y a à la fois quelque chose de complexe dans la relation, puisqu'il y a la peur d'être touché par le virus et en même temps un besoin, une nécessité fondamentale, existentielle de relation.
Et notamment le mot « toucher ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, particulièrement les personnes âgées, mais d'autres aussi qui vivent seules, par souci de les protéger, on ne les touche plus. Et nombreux sont ceux qui exprime le fait que c'est très douloureux finalement de ne plus être touché depuis des semaines et des mois. Plus un contact, plus une caresse, plus un baiser, plus une accolade. On disait parfois avant, c'est comme si on était pestiféré. Ben aujourd'hui, on est covidé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bulle qui s'est créée, une bulle invisible, mais qui nous met à distance. Et malheureusement, plusieurs des personnes solo avec lesquelles je suis en relation ont exprimé le fait qu'ils n'ont pas été touchés par le Covid, mais ils ont été touchés par la dépression.
Donc un besoin relationnel, un besoin de reconnaissance, un besoin de contact et un besoin d'amour.
Besoin d'amour qu'on a tous finalement. Simplement les personnes qui vivent avec des enfants à la maison ou avec un conjoint ou avec d'autres membres de la famille reçoivent au moins partiellement leur quota quotidien de ce besoin d'amour. C'est vrai que dans Notre Père, par exemple, on prie « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il y a différentes versions de ce Notre Père, parfois adaptées. Et dans une de ces versions, il y a « Donne-nous aujourd'hui notre besoin quotidien d'affection ». Et c'est vrai que c'est un Notre Père qu'on a écrit avec les solos qui souligne le fait que, eh bien, pour les personnes qui vivent seules dans leur appartement, ce besoin n'est pas comblé par l'entourage immédiat. Et donc, il reste à combler au cours de la journée par différentes rencontres, par différents appels téléphoniques, différents messages. Mais voilà, c'est un besoin qui peut vite devenir, rester vacant et du coup créer un manque. Et quand les manques s'accumulent, créer une souffrance.
À la Fondation La Cause, et particulièrement dans ce département Solo Duo, qu'est-ce qui est proposé ou qui a pu être proposé pour aider les solos ou remédier à ces problèmes ?
La première idée qui nous est venue quand nous avons appris le confinement dès les premiers jours, c'est l'idée que les solos enfermés chez eux allaient manquer de la possibilité de parler. On parlait de besoin d'amour, le besoin de s'exprimer fait aussi partie des besoins essentiels dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire un besoin d'être en relation par la parole, par le verbe.
Et quand on dit besoin de parler, c'est aussi besoin donc d'être entendu, écouté.
Et oui, on ne va pas parler dans le vide, quoique il y a des solos qui ont pris l'habitude de parler tout seul à haute voix, ne serait-ce que pour entendre le son de leur voix.
C'est compréhensible. C'est plus facile quand on a un animal familier de lui parler, même s'il ne nous répond pas spontanément. On a aussi la possibilité dans la prière d'exprimer à haute voix et d'entendre sa voix et de faire monter des besoins, donc en étant aussi isolé, seul.
Cependant, quand on est dans une solitude où il n'y a pas une oreille attentive, le fait de ne pas être entendu peut être aussi problématique. Donc, il y a à la fois le fait de s'exprimer à haute voix et le fait aussi d'être entendu, donc accueilli. Donc, c'est un peu deux mouvements, même si ça paraît être la même chose.
D'avoir une certaine reformulation de ce qu'on a dit pour se sentir compris, écouté, exister tout simplement.
Et peut-être aussi pour aller plus loin. Souvent, des personnes solo disent que quand ils ont une mauvaise nouvelle ou une difficulté, ça tourne en rond dans leur tête. C'est une pensée qui se fait lancinante et qui tourne en rond dans le sens qu'elle n'arrive pas à sortir d'un mécanisme, un peu d'un cercle vicieux d'inquiétude ou d'angoisse ou de colère, alors qu'avec un vis-à-vis, par eux-mêmes, ils pourraient développer leur pensée et aller plus loin et donc en sortir, trouver par eux-mêmes un chemin de solution, un chemin d'apaisement.
D'ailleurs, c'est une vraie question dans les relations de travail, de relations professionnelles. Une remarque négative qui est exprimée à quelqu'un qui va être en couple va être mieux perçue parce qu'en couple, ça va être discuté et qu'il y aura un recul possible. Pour un solo qui ne peut pas en parler, et cela va tourner dans sa tête et ça prend des proportions tout à fait disproportionnées.
Dans ce cas-là, effectivement, on peut noter que de vivre en solo peut amener à être un petit peu plus fragile, en tout cas au niveau émotionnel, du fait que les émotions vont, comme on l'a dit, tourner en rond.
Donc je vais reposer peut-être ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui, avec la Fondation La Cause, a pu être mis en place pour aider les solos dans le passé et dans le présent et dans l'actualité de ce que nous vivons?
Alors, au niveau du confinement donc du mois de mars dernier, nous avons immédiatement eu l'idée qu'il fallait donner aux solos l'occasion de parler. Et donc, nous avons mis en place une procédure de causerie. Nous avons bien sûr souhaité faire une sorte de jeu de mots avec le mot de notre fondation, le nom de notre fondation, La Cause, et de dire, ben voilà, on va inviter les solos à une causerie en faisant les choses de façon très organisée. C'est-à-dire que nous avons réuni les personnes par téléphone, par groupe de quatre, avec à chaque fois un responsable qu'on a appelé un modérateur et qui a apporté un petit peu le fil conducteur de l'entretien qui durait une heure chaque semaine avec un rendez-vous régulier, par exemple tous les lundis à 6 heures, et qui permettait d'aborder en une douzaine de séances suivies différents thèmes de la vie assez profonds et assez essentiels. Alors bien sûr, au début, autour de la problématique du confinement, mais après, de façon beaucoup plus large, sur les différents sujets de la vie personnelle. Et on s'est aperçu d'un grand succès, à la fois par le nombre d'inscrits, mais aussi par le bonheur que les gens avaient de pouvoir ainsi construire des amitiés qui au départ étaient assez étonnantes parce que totalement basées sur quelque chose de nouveau, quoi, des gens qu'ils n'avaient jamais vus et qui se révélaient finalement être très profondes et très bienfaisantes.
J'étais animateur d'un des petits groupes, un des nombreux petits groupes à ce moment-là, avec effectivement 4 personnes en audioconférence. Et dans un premier temps, il y avait effectivement un moment d'échange où chacun pouvait dire ce qu'il vivait, ses difficultés. Et ensuite, un partage sur le thème. Les participants avaient reçu préalablement quelques informations sur le thème pour qu'ils puissent y réfléchir dans leur journée. Et ça a été tellement fort que les participants demandaient qu'on prolonge. Avec aussi la particularité que ces participants n'étaient pas de la même ville. Ils étaient de toute la France et ils vivaient des situations professionnelles très différentes. D'ailleurs, en témoignage, un des participants de mon petit groupe a été malade, a attrapé le Covid et nous avons pu l'accompagner en continuant à correspondre et à échanger téléphoniquement régulièrement avec cette personne pendant toute cette traversée de maladie.
Pour certains, c'était donc un soutien presque indispensable par rapport à une grande solitude. Pour d'autres qui avaient déjà beaucoup de réseaux, d'églises, de familles, c'était peut-être juste un plus. Mais en tout cas, nous avons constaté que cette idée a vraiment rempli sa mission de rompre l'isolement et d'apporter quelque chose de l'ordre de la remise en relation les uns avec les autres. Et c'est pourquoi on va reprendre cette idée pour faire une nouvelle causerie là au cours de l'automne, au mois de novembre, où chacun pourra s'inscrire pour participer lui aussi à un petit groupe.
Ce premier cycle de causerie a porté des fruits donc très positifs et les gens ont aussi voulu d'abord prolonger cette causerie tant que c'était possible et ensuite ont souvent échangé leurs coordonnées et ont pu se rencontrer pendant les mois de juillet et août. Donc c'est aussi des liens d'amitié qui se sont tissés grâce à ces premiers épisodes de causerie.
Et c'est un peu un effet secondaire de notre idée initiale. Et nous remarquons dans beaucoup de nos activités à la cause pour les solos, le fait que justement, à partir d'une première rencontre, vont se créer un réseau, un soutien, d'autres idées, et que comme ça, ça essaime au plus loin de ce que nous avons initialement semé.
Nous écoutons un extrait du CD Luther de Sandrine Pourrahi et Philippe Husser.
Ce CD, édité par les éditions La Cause, retrace à travers la musique de Luther et les deux instruments très doux que sont la harpe et la flûte de Pan, une mélodie qui peut être à la fois porteuse de confiance, mais aussi un peu d'angoisse parfois. Et donc cet extrait que nous venons d'entendre, pour moi, évoque bien l'idée d'une solitude. Dans le terme solo, d'ailleurs, il y a cette idée de jouer seul. En orchestre, on dit faire un solo, c'est un instrument qui s'élève seul. Alors pourtant, en orchestre, ça a quelque chose de positif parce que souvent, c'est tous les autres instruments qui écoutent le solo du hautbois, de la flûte ou de la harpe et qui s'en réjouissent avant de reprendre tous ensemble une mélodie et de donner un petit peu un mouvement symphonique à la mélodie. Mais parfois, donc pour les solos, ça peut être très bon quand il y a ce va-et-vient entre des moments tout seul et des moments en groupe. Mais quand les moments en groupe ne sont plus possibles, c'est là qu'il y a un déficit au niveau relationnel.
Le vrai mot des sociologues initialement, c'était solobataire. Et les solos se sont souvent réappropriés en disant « on n'est pas des solobataires, on est des solobattants » pour montrer qu'ils voulaient ne pas se laisser aller et enfermer par ce sentiment de solitude.
Nous avons à la cause toujours eu cette double pensée, un peu paradoxale, mais de la vérité naît toujours de cette tension en fait. C'est d'à la fois être particulièrement sensible à la souffrance qui peut s'exprimer dans certaines situations de solitude et en même temps ne pas tomber dans une sorte de commisération ou de compassion condescendante, mais au contraire de valoriser les talents, les idées, le dynamisme de chaque personne pour pouvoir finalement faire des groupes et des activités très joyeuses. Donc on n'est pas dans dans une sorte de bureau des plaintes. Je le précise parce que souvent des gens au téléphone expriment qu'ils ont un petit peu peur de rejoindre un groupe de solo parce qu'ils ont peur que chacun sorte son mouchoir pour raconter son histoire et être vraiment dans une position plus de larmoyante, alors que ce n'est pas du tout notre attitude. Par contre, dans la joie de se rencontrer, nous ne sous-estimons pas le fait qu'à la maison, chacun peut traverser des heures sombres.
Tout à l'heure, nous avons parlé de ce besoin universel d'amour. Les Beatles ont chanté « All we need is love », c'est-à-dire « Nous avons tous besoin d'amour ». Et c'est vrai que le nombre de chants d'interpellation dans notre société qui disent « ce besoin existentiel de relations humaines » est extraordinaire. Et théologiquement, bibliquement, Dieu est amour. Il nous a fait à son image « J'aime homme et femme » dans cette particularité justement du verbe « aimer ». Et dans ce côté relationnel qui est fondamental. Et je crois que la création de Dieu, c'est justement cette image qui reflète ce besoin d'affection et de relation qui habite Dieu.
Dieu nous crée hommes et femmes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte de la Genèse. Dieu avait en pensée de créer l'humain. Et en le créant, il le crée double, il le crée hommes et femmes, avec cette diversité et avec en même temps cette unité. Et une des caractéristiques donc, de cette première pensée jaillissante qui vient poser la création humaine, eh bien, c'est le fait que quand ils seront deux, il y aura quelque chose qui va circuler entre eux. C'est cette dynamique de vie, c'est cette relation, c'est cet amour. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes persuadés que si nous avons besoin d'amour, ce n'est pas un accident de la vie, c'est parce que c'est la volonté vraiment première de Dieu de nous faire vivre en relation les uns avec les autres. Et donc, si ensuite Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas non plus un changement radical par rapport à la première alliance, donc celle que vit le peuple d'Israël, parce que dès la première alliance, Dieu se révèle aussi comme un Dieu qui appelle à la relation, qui appelle à l'amour entre les humains et aussi entre lui et nous.
Dès l'enfance, il y a ce besoin d'amour qui est absolument fondamental. Et on parle des trois premières années de la vie qui sont structurantes sur l'ensemble de la vie. On a vu dans les orphelinats, puisque nous travaillons aussi avec la Fondation La Cause sur les orphelinats dans pas mal de pays. On a vu en Roumanie les enfants dans leurs premières années qui étaient privés de cette affection et du coup qui devenaient malades psychologiquement et qui allaient dans les hôpitaux psychiatriques en grandissant. On a vu que des enfants malnutris qui étaient entourés d'affection rattraper ce retard dans leur croissance lorsqu'ils retrouvaient une alimentation correcte, mais n'avaient aucune séquelle parce qu'ils avaient été aimés, parce qu'ils avaient été pris dans les bras. Donc cet amour, qui est notre fondement aussi créationnel, est fondamental à tout âge ensuite de la vie. On a besoin d'être aimé. Peut-être que d'ailleurs cette nouvelle mode depuis quelques années des selfies, où on se prend en photo pour envoyer son image à des tas d'amis et en espérant qu'ils vont dire qu'ils aiment bien et qu'ils trouvent que c'est sympathique et qu'ils nous aiment bien, est aussi significatif de ce besoin d'amour.
Puisqu'un des émoticônes de réponse, c'est le petit cœur rouge qui fait comme une circulation d'amour. Alors on peut peut-être se demander si c'est vraiment très profond, mais en fait, en tout cas, c'est le signe, c'est le symbole du fait qu'on a besoin de s'échanger ce type de message. C'est vrai aussi pour nos personnes les plus âgées. On voit combien elles ont été privées et combien aujourd'hui encore dans les EHPAD où les visites sont comptées, ou j'allais dire au compte-gouttes, ça peut être douloureux. J'entendais encore hier une amie de cinquantaine d'années qui disait c'est difficile parce que si je vais voir ma mère en semaine, mes enfants pourront pas y aller parce que c'est deux visites par semaine. Donc il y a une espèce de mise comme ça en souffrance des personnes âgées par le fait qu'elles sont en privation de l'expression d'un amour familial.
Un pasteur disait la même chose en disant « si je vais rendre visite à une personne âgée en EHPAD, à sa demande bien souvent, ensuite la famille ne peut plus venir puisque j'ai déjà pris une des visites hebdomadaires ».
Donc c'est difficile en ce moment, peut-être que nous avons à inventer de multiples façons de pouvoir montrer notre affection aux uns et aux autres, malgré les barrières tout à fait nécessaires qui sont imposées par les circonstances. Et donc on n'est pas là pour critiquer ces barrières, mais simplement pour dire qu'il nous faut faire preuve de créativité, d'inventivité, pour que justement les uns et les autres ne soient pas délaissés, oubliés et finalement assoiffés d'affection.
Redire que l'amour est au cœur de nos vies, d'ailleurs c'est reprendre 1 Corinthiens 13, qui est un passage de l'apôtre Paul absolument extraordinaire, qui dit, et il reste ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour qui demeurent, et la plus grande parmi les trois, c'est l'amour, et qui met l'amour au-dessus de la foi et même de l'espérance. C'est quand même un résumé de la dynamique chrétienne absolument extraordinaire. Il est bon aussi de voir que dans les familles, cet amour doit être fondamental, c'est ce qui lie les êtres dans la famille et qui leur permettent de passer au-dessus de certaines difficultés de la vie, des épreuves de la vie. Et que si cet amour disparaît, la famille est une faille, a une faille profonde. C'est d'ailleurs un jeu de mots sur le mot famille, puisque la lettre centrale c'est M, et si on enlève ce M, famille devient faille.
En fait, les personnes qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles dans leur enfance en sont marquées pour toujours, parce qu'effectivement, c'est un lieu dans lequel on aspire à trouver de la sécurité, les besoins vitaux, mais aussi cette affection qui fait grandir. Et donc, quand on en a été privé dès l'enfance, ça marque. Et dans les couples que nous accompagnons en tant que conseil conjugal, nous voyons combien des conjoints qui ont été blessés à ce niveau-là dans leur enfance, eh bien, deviennent aussi, à certains moments, dans des positions un peu difficiles vis-à-vis de leur conjoint, parce qu'il y a une sorte de soif insatiable ou au contraire de difficulté à se laisser aimer. Et donc, c'est possible, bien sûr, de travailler sur ces questions-là, mais on voit combien c'est marquant pour l'individu au plus profond de sa réalité.
Vous êtes sur Fréquence Protestante avec la Fondation La Cause. Au micro, Nicole Deves, directrice du département Solo Duo, qui nous parle de l'accompagnement des solos. On a évoqué la causerie des solos, le premier cycle qui a eu lieu pendant le confinement, un deuxième cycle qui va commencer prochainement. Et nous voulons aussi parler des groupes Sol-Fa-Sol, solidaires face à la solitude.
Sol-Fa-Sol existe depuis 1999 et propose dans les régions des activités, des sorties pendant le week-end pour les personnes solo.
Ces rencontres ont repris avec les mesures barrières qui sont bien appliquées et les solos sont très heureux de se retrouver tantôt pour une sortie culturelle, tantôt pour une sortie sportive, une marche en forêt, ensemble et pouvoir avoir des temps d'échange, de partage.
À Nice, ils ont fait du vélo. Avec l'Île-de-France, ils vont aller ce week-end en forêt de Fontainebleau. En Charente-Maritime, ils vont visiter un site de production de moules ou d'huîtres. Les activités sont très variées. En fait, elles sont simplement l'occasion de sortir de chez soi déjà et puis de visiter un peu sa région. C'est vrai que souvent, quand on habite une région, quelle qu'elle soit, on a peu de temps ou l'idée de visiter soi-même sa région. Et donc, de le faire en groupe, c'est tonique.
Donc c'est organisé en lien avec l'ensemble des églises protestantes et c'est aussi un côté fédératif, c'est-à-dire que ce sont toutes les églises de toutes les unions d'églises qui contribuent à aider à la mise en place de ces groupes.
En accueillant par exemple dans les locaux les temps de partage spirituel. En Lorraine, par exemple, dernièrement, ils ont visité à Sarrebourg le musée Chagall et l'église avec les vitraux et ont pu faire ensuite un temps de partage plus personnel dans un des locaux d'église.
Ces rencontres concernent des personnes, hommes et femmes, de tout âge.
Il y en a pour chacun. Certains groupes sont plus dynamiques avec beaucoup de sport, d'autres plus culturels. Peu importe, l'idée c'est de passer un bon moment ensemble, se faire du bien. Avec souvent trois temps, un temps plus de partage spirituel, un temps de repas. Bon, la convivialité des repas en ce moment est un peu compliquée, mais quand même. Et puis avec un temps vraiment de sortie, de s'intéresser à autre chose.
Le site de la cause d'ailleurs présente chacune de ces sorties sur l'ensemble de la France, avec chaque fois une représentation par une photographie, le programme qui est très détaillé, et puis la personne contact du groupe régional.
Voilà, donc sur le site www.lacause.org, on peut retrouver toutes les sorties de ces réseaux qui s'appellent Sol Fa Sol et qui est destiné au solo.
Le département Solo Duo donc s'intéresse et travaille avec les solos, avec bientôt une causerie qui pourra aussi être présentée sur le site. Il est possible de s'y inscrire sur le site de la cause pour la prochaine causerie si nos auditeurs sont intéressés. Pour les couples, ce département apporte aussi énormément de choses à travers des sessions, à travers un conseil conjugal et familial, l'accompagnement de couples en difficulté. Il y a des projets pour 2021.
Donc, il y a des projets d'abord pour la préparation au mariage en Île-de-France. Nous faisons une journée collective. Et puis, des sessions. Trois sessions sont devant nous. Une en février, une à l'Ascension au mois de mai et une au mois de juillet. Trois occasions pour les couples de prendre du temps pour eux afin de dialoguer, de réfléchir, de faire une pause, de retrouver peut-être plus de profondeur ou plus d'élan. Parfois aussi de guérir quelques points conflictuels dans leur relation. Et donc, à travers l'expérience des autres dans des témoignages, à travers le soutien de professionnels, psychologues et conseillers conjugaux, il s'agit de pouvoir vraiment prendre soin de son couple pendant un week-end ou une petite semaine.
Ces sessions sont organisées en partenariat avec la Fondation La Cause et un organisme catholique à vocation œcuménique qui s'appelle Fondatio et qui est à son siège à Versailles.
Et donc, il y a une présence spirituelle protestante et catholique au sein de ces sessions, avec la présence d'un pasteur, d'un prêtre, des moments de prière et aussi une célébration œcuménique qui vient dire l'unité.
C'est d'ailleurs intéressant parce que les couples qui ont parfois été dans des conflits se retrouvent et retissent leur unité. Et aussi, les confessions chrétiennes qui n'ont pas toujours été parfaitement unies à travers les siècles, avec parfois des lourds contentieux, se retrouvent dans une véritable réconciliation. Et donc, c'est une marque intéressante et symbolique.
C'est comme une parabole, on leur dit au début. Si nous arrivons à travailler ensemble depuis des années pour monter ces sessions main dans la main, à travers votre couple, vos différences ne sont pas forcément des obstacles, mais aussi des occasions de s'enrichir et de travailler à une complémentarité, à une harmonie, à un dialogue. C'est tout l'enjeu du dialogue de couple. C'est d'accepter l'altérité comme source de joie plutôt que comme source de tension. Je crois qu'en fait, c'est une difficulté pour tout humain tout au long de sa vie, que ce soit dans les relations familiales, professionnelles, ecclésiales. L'altérité est souvent vue comme une menace. On veut réduire l'autre à ce qu'il a de semblable avec soi-même, alors qu'en fait, c'est en appréciant sa différence que l'on peut vraiment ouvrir son propre cœur, ouvrir un chemin et découvrir le plan de Dieu, puisque nous pouvons finir cette émission en reprenant l'idée initiale. Nous avons été créés, égaux et différents, faits pour le dialogue dans une altérité.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de La Cause, www.lacause.org. Vous pouvez téléphoner en semaine au 01 39 70 60 52. L'adresse de la Fondation La Cause, 69 avenue Ernest Joly, 78 955 à Carrières-sous-Poissy.
Nous venons de parler du département Solo Duo de La Cause qui s'adresse aux couples et aux célibataires. Mais il y a aussi trois autres départements. Le département Enfance,
qui s'occupe du parrainage, de l'aide au développement à Madagascar, au Togo, au Cameroun et en Haïti, et également de l'adoption.
Et puis, il y a le département édition avec un certain nombre d'ouvrages liés à la foi sur l'histoire du protestantisme, sur la foi aujourd'hui pour les jeunes, les enfants, les adolescents.
La musique que nous venons d'entendre s'y trouve aussi puisqu'il y a des CD, des films en DVD. Et puis le dernier département, c'est le département handicap visuel avec une bibliothèque sonore et braille disponible en franchise postale sur toute la France.
À bientôt.
Au revoir.